Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Ce soir, les manifs sont-elles trop policées ? La liste commence à être longue, SNCF, Air France, Carrefour, fonction publique, université, retraités. Les mouvements sociaux se densifient en ce printemps 2018. Alors il est beaucoup trop tôt pour parler de la fameuse convergence des luttes, mais on observe ici et là quelques rapprochements. Ainsi à Paris ce mardi, le cortège des cheminots a été rejoint par des étudiants, des agents hospitaliers, des enseignants. Une solidarité intergénérationnelle également observée à Lille, Tours et Bordeaux dans des manifestations de moindre ampleur. Dans la capitale, des incidents ont éclaté sur le parcours. Vitrines de commerce brisées, poubelles incendiées. À quoi les forces de l'ordre ont répondu en utilisant des gaz lacrymogènes. Des scènes devenues, si ce n'est systématiques, en tout cas familières. Depuis notamment la mobilisation contre la loi travail portée par le précédent gouvernement, les manifestations se caractérisent souvent par de fortes tensions entre ceux qui défilent et ceux qui les encadrent. Des débordements violents qui renvoient forcément au souvenir de mai 68, comme si rien n'avait changé depuis. Alors les manifs sont-elles trop policées ? Oui, policier, c'est un petit jeu de mots que nous nous sommes permis ce soir pour titrer cette émission. Et nous allons en discuter avec deux invités. Daniel Tartakovsky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des mouvements sociaux. On vous doit notamment La Manifestation, un ouvrage que vous avez coécrit avec Olivier Filleul, c'était aux presses de Sciences Po. La dernière version est sortie en 2013. Et puis également Le Pouvoir est dans la rue, ça c'était chez Aubier, c'est un petit peu plus ancien.
C'était un petit jeu de mots aussi.
C'était, ben oui, absolument. Ah ben on va voir si Christian Moina lui aussi fait des jeux de mots. Vous êtes notre deuxième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. La police contre les citoyens, c'est un ouvrage que vous avez publié en 2012 aux éditions du Champ Social. Alors je voudrais d'abord, avant d'observer peut-être ce qui peut se passer du côté des forces de l'ordre et du côté des manifestants, avoir votre appréciation globale sur la violence, sur la radicalité qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les mobilisations sociales. Est-ce que vous diriez, Daniel Tartakovsky et Christian Moina, que les mobilisations sont de plus en plus violentes, ou bien peut-être que la violence est de plus en plus visible, ce qui ne veut pas forcément dire exactement la même chose. Daniel Tartakovsky.
Je dirais qu'il y a des manifestations de violence indéniablement plus nombreuses dans les manifestations. On est dans un pays où les organisations qui sont en charge de la très grande majorité des manifestations, et ce de très longue date, n'ont jamais développé de stratégie de la violence dans la rue et dans leurs manifestations. Il advient très exceptionnellement que cela puisse se produire, mais depuis une dizaine d'années, on est effectivement confronté à des forces qui ont une stratégie de la violence comme élément de déstabilisation.
Et quand ça se produit, Daniel Tartakovsky, c'est côté manifestant comme côté force de l'ordre ?
C'est côté manifestant, c'est aux côtés de forces qui profitent d'une manifestation pour déployer des stratégies de violence dans la manifestation, avec des phénomènes de porosité qu'on a vu apparaître au moment des manifs contre la loi El Khomri, mais qui ont cessé au moment de la loi Pénicaud et aujourd'hui, enfin dans les jours ces jours-ci, je dirais.
On va demander peut-être à Christian Moina s'il partage votre diagnostic. Christian Moina.
Mais on peut parler de périodes où il y a augmentation de la violence sur du court terme et baisse de la violence. Chaque manifestation a un peu ses caractéristiques. Ce qui est plutôt, me semble-t-il, une tendance lourde, c'est le fait que, comme on a des syndicats qui sont apparemment de plus en plus faible, et puis donc un encadrement des manifestations par les syndicats qui est de moins en moins contraignant, ça laisse la place peut-être plus facilement à l'insertion de ces fameux groupes de, alors ce qu'on appelait à une période dans les années 70 les casseurs, ce qu'on appelle maintenant les black blocs ou autres, enfin de gens qui profitent pour mener des actions radicales. Enfin, le terme radical est trop utilisé en ce moment. En tout cas, on casse, on brûle des poubelles, on casse, on envoie des projectiles sur les forces de police. On n'est pas dans une violence, même quand on regarde les images de mai 68, enfin vous me corrigerez, on voit qu'il y a quand même une violence, il y a beaucoup plus de policiers blessés, de gens blessés. Là quand même, la stratégie dominante de la police, ça ne marche pas toujours, mais plutôt d'éviter les blessés, d'éviter surtout le mort, qui remet en cause toute la stratégie gouvernementale.
Le problème, c'est que je crois qu'on est dans un pays où très tôt, je parle sous votre contrôle, on a le pouvoir politique a mis en place des forces de l'ordre qui ont appris à maintenir l'ordre au moindre coût en termes de vie humaine. C'était l'objectif. Il y a le traumatisme de Fourmi en 1891.
Grande grève.
Et donc maintenir l'ordre au moindre coût humain avec des forces spécialisées, donc surtout pas l'armée, traumatisme de Fourmi. Ensuite, des forces spécialisées après 1919, parce que comment mettre face à face des hommes qui se sont battus ensemble dans les tranchées, et s'ils se retrouvent, bon, donc des forces spécialisées. Donc, globalement, dans ce pays, la police, les forces de l'ordre, savent maintenir l'ordre, encore une fois, au moindre coût humain, sauf dans des circonstances où, pour des raisons politiques, il leur est demandé de sortir un petit peu de leur stratégie normée. Le problème pour ces forces de l'ordre, et c'est sans doute à ça qu'on est en partie confronté aujourd'hui, c'est quand surgissent des forces manifestantes qui sont les organisateurs ou pas, et là, ces jours-ci, évidemment, ce ne sont pas les organisateurs, qui déploient un usage de la rue que des stratégies de la rue, un usage de la violence dont ils n'ont pas l'habitude. Quand les manifestants et les forces de l'ordre se connaissent depuis des décennies et quelquefois davantage, il y a implicitement des codes qui leur permettent d'éviter la violence.
Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'il y a une forme, en tout cas qu'il y a eu une forme de co-gestion, Christian Moinat, des manifestations entre d'un côté justement les organisateurs et ceux qui sont là pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire qu'un modus operandi sur lequel on se met d'accord et qui permet ou qui permettait en tout cas jusque-là de prévenir peut-être les débordements violents.
Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aux manifestants de se déclarer en préfecture. C'est quand les forces de l'ordre, quand les CRS et autres fonctionnent bien, il y a un contact qui s'est établi avec notamment les responsables syndicaux ou le responsable du service d'ordre syndical. C'est pour ça que c'est plus difficile de gérer une manifestation de lycéens qui est en général peu encadrée, où il n'y a pas un professionnalisme de la manifestation. C'est plus compliqué que d'encadrer une manifestation par exemple avec des cheminots ou autres, où il y a un service d'ordre de la CGT qui a une expérience où les gens se connaissent. C'était le cas pendant très longtemps à l'UNEF, où une partie des leaders de l'UNEF connaissaient les forces de police, donc on avait cette négociation, cet encadrement. Ce qui a été critiqué durant la loi travail...
C'est l'affaiblissement syndical pour vous qui est en cause, mais c'est une perte aussi peut-être d'expertise de ce qu'est la manifestation.
Je pense que ce sont les deux, à la fois un encadrement syndical un peu moins fort et des capacités de négociation moins fortes, mais aussi du côté policier, et on l'a vu me semble-t-il pendant l'année 2016 durant les lois travail, où il y a eu une perte de savoir-faire peut-être des policiers qui auparavant savaient mieux gérer ces relations. On a réorganisé les services. Enfin, il y a eu des tas de modifications à l'intérieur des forces de police qui font que peut-être c'était beaucoup moins évident. Bon, après, il y a aussi tout l'aspect instrumentalisation par le pouvoir politique de ce jeu avec les forces de police où à la fois il faut bien encadrer les manifestations, parfois laisser certains débordements pour la discréditer. On est sur des jeux assez complexes.
Je reviens à ce que vous disiez, il faut se déclarer en préfecture. Là, je me tourne vers l'historienne Danielle Tartakovsky. Ça, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire des manifestations françaises. Enfin, relativement récent, ça date de 1935. Ça veut dire qu'avant, on manifestait, mais que la manifestation n'était pas forcément considérée comme légal ou légitime. Et est-ce que ça a pu avoir un impact justement sur la façon dont on manifeste encore aujourd'hui en France?
Je vais vous répondre, mais est-ce que je peux revenir 30 secondes sur
vous pouvez faire les deux.
Sur la co-gestion. Parce qu'il advient même qu'on puisse avoir des formes, faut-il dire, de co-gestion ou de co-construction de la violence dans des manifestations. Les collègues qui ont travaillé sur les manifestations d'agriculteurs des années 60 et au-delà montrent très bien comment, dans les négociations préalables que vous évoquiez, les militantes de la FDSEA disent « Oui, mais il faut quand même qu'on puisse brûler des pneus, parce que si on ne brûle pas des pneus, on va avoir du mal à contenir nos troupes. » D'accord, mais alors les pneus, vous les brûlez jusque-là, parce que sinon, on serait obligé d'intervenir. Et visuellement, la violence est là, et la manifestation remplit sa fonction. On constate que c'est les niveaux de tolérance de la violence et les formes de la violence ne sont pas similaires selon qu'il s'agit des agriculteurs ou qu'il s'agit des lycéens avec les problèmes que vous évoquiez,
ou de jeunes de banlieue. Alors
1935.
Donc cette co-gestion avec quand même une histoire qui était relativement compliquée. Ce que vous expliquez d'ailleurs dans le livre que vous aviez publié sur la manifestation, c'était que contrairement grands pays anglo-saxons où la manifestation a permis d'obtenir le droit de vote. Là, en France, c'est l'inverse. Il y a d'abord le droit de vote et après, on reconnaît la manifestation, ce qui fait qu'elle a peut-être eu plus de mal à gagner en légitimité.
Il y a une illégitimité fondamentale de la manifestation de rue. On peut manifester sa pensée, bien sûr, mais là, de la manifestation de rue, qui est perçue comme l'expression d'un corps intermédiaire entre le citoyen électeur et la seule expression légitime des citoyens qu'est le Parlement, au moment où nous parlons, équivaut effectivement. C'est pas que la manifestation est interdite, c'est qu'il n'y a pas de statut de ce qu'on appelle d'ailleurs pas la manifestation, qui a des tas de noms parce que ça n'est pas codifié. Même le texte de 1935 n'emploie pas le mot manifestation, il emploie défilé, cortège, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation. Ça veut dire que en province, du fait de la loi municipale de 1884, il dépend d'un maire d'autoriser ou de ne pas autoriser ce qu'on appelle plutôt un cortège sur la voie publique, voire une procession. Et quelquefois, il s'agit de procession, stricto sensu. À Paris, pas de maire élu avant des dates qui sont relativement récentes. Donc, préfet, ministère de l'Intérieur, et donc pas d'autorisation et pas de demande. Et ça veut dire pas de négociation. Et il faut attendre 1935. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 1935, c'est pas une loi, hein, c'est un décret-loi, mais c'est pas un texte de liberté qui garantirait la liberté de manifester. C'est un texte qui vise à gérer les manifestations après les manifestations violentes des Ligues 1934-1935.
Est-ce qu'aujourd'hui, il en reste des traces de ce défaut de légitimité dans la façon dont le pouvoir politique, qui détient, comme on le sait depuis Max Weber, le monopole de la violence légitime et qui a donc un de ses bras pour assurer justement cette violence qui est la police, est-ce qu'il en reste des traces aujourd'hui, Christian Moinin, c'est-à-dire de considérer que peut-être la manifestation n'est plus un outil suffisamment légitime pour être exercé sans qu'il y ait un contrôle très strict de la part des forces de l'ordre.
La manifestation, elle est tolérée, elle est autorisée. Mais ce qui est intéressant...
Tolérée ou autorisée, c'est
oui,
mais pas la même chose. Hein.
Ça dépend des moments. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, elle vient parce qu'il n'y a pas eu de négociation en amont. On manifeste pour obtenir le droit de négocier ou pour essayer d'obtenir la négociation sur une loi avec laquelle on est en désaccord. Ça, c'est un premier point. Donc... on peut, en quelque sorte, du côté du gouvernement, pour caricaturer, dire qu'on laisse un peu les gens manifester leur mauvaise humeur, mais que normalement, il s'agit pas d'obtenir une négociation. Or, très souvent, du côté des manifestants, au contraire, il s'agit d'aller vers une négociation qui n'a pas eu lieu ou qui a été considérée comme insuffisante en amont.
Pourrait dire, Christian Moinin, qu'en fonction de la façon dont se comportent les forces de l'ordre dans une manifestation, ça donne un indice de la volonté ou pas du pouvoir politique de négocier?
Alors ça dépend parce que parfois, et on l'a vu notamment en 2016, les mouvements contre la loi travail, on a eu une espèce de double injonction du gouvernement vers les forces de l'ordre. C'était à la fois pour des raisons de sécurité, on était suite aux attentats, le Bataclan, etc. Donc on a essayé de faire peur aux manifestants, on a interdit les manifestations au moment de la COP21, juste après les attentats du Bataclan. Puis après, on a essayé d'interdire les manifestations, la loi M. Khomri, on a surtout essayé de dissuader les manifestants de protester, mais finalement, on a laissé faire. Et en laissant faire, le gouvernement était lui-même dans une contradiction, puisqu'il laissait faire, alors que même, d'après ses propres injonctions sur la sécurité des manifestants, il ne devait pas laisser les gens dans la rue. Donc on a eu des policiers qui se sont retrouvés à la fois avec l'ordre de laisser les manifestants, et puis en même temps, et on l'a vu, parce qu'il y a eu ces manifestations limitées au bassin de l'Arsenal, enfin des tas de choses complètement assez délirantes quand on regarde la gestion d'une manifestation. Et donc on a eu tout ça qui a fait que les policiers, à un moment, se sont retrouvés à faire des choix eux-mêmes. Or, il n'y a rien de pire quand le pouvoir politique laisse des policiers faire des choix eux-mêmes, avec des échelons intermédiaires qui ont pu prendre des initiatives. Bon, à cela s'ajoutait ce qu'on a appelé la fatigue des policiers qui étaient engagés sur le front de la lutte contre les attentats ou de la protection, qui ne comprenaient pas, pour une partie d'entre eux, que des manifestants prennent le risque, entre guillemets, de manifester alors qu'il y avait des choses plus sérieuses qui se passaient selon la terminologie policière.
D'autant qu'ils avaient été applaudis quelques mois plus tôt.
Ils avaient été applaudis, mais bon, ça les a pas trop marqué, ils n'ont jamais été enthousiasmés par ces applaudissements, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir comment il y avait une espèce d'incompréhension par rapport à des gens qui manifestaient alors même que le problème numéro un, c'était le terrorisme. Et donc, du coup, il y a eu cet énervement, et puis on est toujours avec des gouvernements qui, à la fois, tolèrent les manifestations, mais peuvent laisser de temps en temps, ou avoir la tentation de fermer, de laisser certains débordements pour discréditer la manifestation. Mais aucun gouvernement, je pense, ne peut l'afficher comme tel, parce que ce serait prendre une grave responsabilité. Donc parfois, on est dans un espèce de flou où on va laisser des policiers prendre des initiatives, parfois malheureuses, comme on l'a vu au moment de la loi travail.
Cette incompréhension dont nous parle Christian Moinat du côté des forces de l'ordre, est-ce qu'on la retrouve aussi du côté des manifestants, Daniel Tartakovsky? J'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, alors c'était justement peu de temps après les manifestations contre la loi El Khomri, que vous évoquiez l'usage de la manifestation comme l'équivalent ou le quasi-équivalent d'un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire une époque où, quand on manifestait, on avait quand même l'espoir d'obtenir quelque chose. Or, manifestement, depuis quelques années, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire les manifestations, je ne vais pas dire qu'elles ne servent à rien, mais enfin, en tout cas, elles ne permettent pas de modifier profondément des projets de loi, voire de les faire abandonner.
Oui, il y a indéniablement, dans une période très récente, deux séquences. Il y a une séquence qui débute avec les manifestations contre la loi Savary en 84 pour la défense de l'école, des financements de l'école privée. Très puissante mobilisation qui s'opère à la droite de l'échiquier politique.
Et le gouvernement va reculer.
Et qui vient à bout de la loi, du ministre qui portait la loi et du gouvernement qui allait avec. Ça correspond avec le tournant de la rigueur. Ce n'est évidemment pas ces manifestations qui sont cause du tournant de la rigueur, mais il est possible que ça n'ait pas, que ça ait pu arranger François Mitterrand d'avoir à gérer son de la rigueur avec un autre gouvernement que le gouvernement Monroy. Mais ceci est une autre histoire.
86 rebelote. Les manifestations contre la loi de Vaquet.
Contre la loi de Vaquet. En gros, de 83 à 97, on a 6 ou 7 manifestations. Alors, une fois passée la première, c'est la gauche de l'échiquier politique, c'est les forces syndicales en 95, mais c'est la communauté éducative, comme on l'appelle s'agissant de Vaquet, de la loi Allègre, du CPI, hein, l'ancêtre du CIP, pardon, l'ancêtre du CPE, de la manifestation des cinéastes contre la loi Debré sur l'immigration en 97. Toutes ces manifestations, qui sont de puissantes manifestations, viennent à bout de projets de loi ou de loi. Ce qui fait qu'on voit s'inscrire dans le paysage l'idée que la manifestation de rue est devenue une modalité de référendum d'initiative populaire que nul n'aurait inscrit dans la loi. Balladur l'exprime à peu près en ces termes au moment du CIP. Je dis souvent que ce sont les guignols de l'info qui le théorisent le mieux en 95, avec le Juppéton. Hein. S'il y a 3 millions de manifestants dans la rue, je partirai. Donc la marionnette de Juppé fait monter le Juppéton en permanence. Il me semble, à chaque fois que je dis ça, j'ai des collègues qui me donnent des contre-exemples, mais que c'est à partir du moment où on se met à penser la manifestation comme un référendum d'initiative populaire que la question du nombre, selon la police, selon les manifestants, devient importante. Parce que si c'est un référendum, il vaut mieux savoir exactement combien on est. Pour avoir travaillé dans la longue durée, ce n'était pas une question qui se posait dans l'entre-deux-guerres. À partir de 2003, Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne, il y a un renversement énoncé par Raffarin, le gouvernement s'est mis en position de tenir quoi qu'il arrive.
Même s'il y aura le CPE en 2006.
Alors, je reviens sur le CPE, mais de 2003 à aujourd'hui, en gros, les mobilisations et les manifestants ne comprennent pas qu'il s'agisse de la manif pour tous ou qu'il s'agisse des manifestants contre les retraites. Mais on est beaucoup plus nombreux qu'en 95. Pourquoi ça ne marche plus ? 2006 exception, à mon avis, moi je pense qu'il faut, dans cette séquence où les manifestations sont venues à bout de loi et de projet de loi, c'était une séquence politique qui était marquée par l'existence de cohabitation ou de contradiction interne au gouvernement s'agissant de 86. 2003, c'est aussi le moment du quinquennat, renversement de calendrier en bloc. Et 2006, il y a des contradictions majeures entre De Villepin et Sarkozy, et je pense que c'est un élément qui permet à la manif de l'emporter.
Christian Moinat.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est de voir aussi le coût humain, le fait qu'on a beaucoup de forces de police, on a à peu près 25 000 policiers et 30 000 gendarmes, ou l'inverse, on a à peu près 50 000 policiers et gendarmes qui ne sont là que pour encadrer les manifestations, ce qu'on appelle les CRS du côté de la police nationale ou les gendarmes mobiles. Donc c'est à peu près 25 à 30% de l'effectif qui est là uniquement pour la manifestation. Et on voit bien que l'idée, c'est d'être en surnombre. Il faut que toujours les policiers soient au moins aussi nombreux que les manifestants, qu'ils soient très forts, qu'ils encadrent très fortement.
Mais et ça, c'est une constante, Christian Moinard, ou c'est quelque chose qui s'amplifie, disons, aujourd'hui?
Alors, c'est toujours le cas, c'est toujours le... ce que je voulais dire, c'était que la contrepartie de ça, c'est que le gouvernement, plus il renforce ses troupes de CRS, de gendarmes mobiles, etc., plus il se donne les capacités de ne pas négocier. Sauf quand on arrive, comme lors des émeutes de 2005... Alors, on parle d'émeutes là, pas de manifestations, mais où, à un moment, il n'y a plus assez de troupes pour contrecarrer les manifestants qui sont dans telle ville de Normandie ou ailleurs. Et donc, là, le gouvernement se trouve à nouveau obligé de trouver d'autres solutions et on va essayer de résoudre les problèmes autrement. Mais sinon, la tentation est toujours grande d'utiliser cette force qui est à disposition et qu'on ne trouve aucun pays occidental où on a autant de policiers qui sont là uniquement pour gérer la manifestation.
Et c'est une visibilité qui est particulièrement remarquée en ce moment dans les manifestations étudiantes. On revient en 2018. Écoutez ce reportage signé Charlotte Jousserand qui est passé sur les antennes de Radio France la semaine dernière. Reportage à Nantes lors de la mobilisation des étudiants et qui concerne justement l'encadrement de cette manifestation.
Les images des étudiants montpelliérains frappés, délogés de force, tout le monde les a vus dans le cortège, comme Camille et Nisrine.
Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais voilà, on va pas taper parce que on veut reprendre les cours.
Je trouve ça dégueulasse et aberrant. Tu peux pas laisser des gens se faire tabasser la gueule en sang et... Non, c'est pas possible, je trouve ça pas normal.
Choqués par les images, choqués aussi par le nombre de CRS qui les entourent pendant la manifestation, Nicolas se sent encerclé.
J'estime que c'est important de respecter les forces de l'ordre, mais vraiment, déployer un hélicoptère et un tel dispositif policier, c'est vraiment... pas beau à voir.
Val, lui, ne comprend pas.
Ici, vous voyez, on est place bouffée, on est entouré par la BAC, par les CRS, tous les sacs sont fouillés. Ils veulent créer un climat de tension et c'est ça aujourd'hui qu'on condamne. On est là pour notre liberté de manifester et contre les violences policières.
Surtout qu'à Nantes, comme à Montpellier ou à Lille, les étudiants mobilisés ont un même objectif, empêcher la mise en place de Parcoursup et du plan étudiant.
On instaure notre lutte contre la loi Vidal et quand nous on instaure cette lutte, on se fait réprimander à la fois par la police et on se fait aussi attaquer par les fachos. Et en gros, de nous mobiliser en réponse à Montpellier, comme on aimerait qu'eux se mobilisent si nous on était attaqués.
Ouais, vous l'avez compris, c'était une manifestation à la fois en réaction aux incidents qui se sont passés à la fac de Montpellier et puis surtout pour contester la loi sur le fameux programme Parcoursup pour l'entrée à l'université, qui est dénoncé comme un moyen de sélectionner. Ça nous renvoie évidemment à la loi Devaquet, qui avait mobilisé en 1986. Christian Moinard, on entendait le terme de disproportion. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un usage disproportionné de la force, des forces de l'ordre dans les manifestations en France? Ou en tout cas, est-ce que l'usage qui en est fait de telle manière qu'il est perçu comme étant disproportionné?
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement, je le disais tout à l'heure, cette loi du nombre. Il faut que les policiers soient suffisamment nombreux pour maîtriser la manifestation si jamais elle tournait mal. Mais du coup, on est dans ces dispositifs très impressionnants pour des gens qui ne sont pas habitués, notamment les étudiants ou les lycéens, quand ils ne sont pas habitués à avoir ces forces de police, ils se sentent réellement... oppressé
et oui, on sait que la peut-être être protégé.
Voilà, mais en même temps, c'est aussi le discours policier. C'est dans le discours policier, c'est l'idée aussi qu'on va vous protéger de contre-manifestants. Et c'est là où c'est particulièrement insupportable pour des gens quand ils manifestent et qu'en plus ils voient que des contre-manifestants ne sont pas séparés. Parce que ça, c'est aussi l'un des principes de base, notamment du maintien de l'ordre, c'est de séparer les manifestants et les contre-manifestants, l'extrême gauche de l'extrême droite, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est il y a clairement donc cette impression, enfin cette volonté de surencadrer, et on voit bien là on a affaire à des lycéens, des étudiants qui sont les populations avec lesquels c'est le plus difficile d'avoir du contact. Il n'y a pas d'organisation très structurée qui peuvent encadrer la manifestation. Et donc, il s'agit un petit peu de faire peur. Et ça pose aussi la question de est-ce qu'on reconnaît aux étudiants et a fortiori aux lycéens la capacité d'entrer dans la négociation, d'avoir une voie politique, comme c'était indiqué tout à l'heure. Autant des agriculteurs, on peut tolérer des manifestations d'agriculteurs parce qu'on les plaint, on les autorise, des surveillants de prison, des choses comme ça. Mais autant pour... Et on le voit bien, quand on a affaire à des lycéens, il s'agit s'agit de leur faire peur. Et on l'a vu, même les manifestations qui ont eu lieu jeudi dernier, on voit bien que les lycéens, c'est eux qui ont reçu le plus ces menaces ou cette pression.
Ben, il existe des organisations lycéennes et étudiantes. Le problème,
oui.
C'est que...
Elles ne sont pas structurées comme des organisations.
Celles-là sont structurées. Simplement, à leur côté, surgissent dans des situations comme celle-là, des coordinations. Et là, les coordinations, évidemment, c'est complexe.
Et puis par définition, c'est compliqué d'accumuler de l'expérience quand on est dans ce genre d'organisation, puisqu'on n'est pas censé y rester très longtemps quand on est, par exemple, dans un syndicat lycéen.
S'agissant des organisations ayant pignon sur rue, l'UNEF, la FIDEL, bon, la FAGE est peu manifestante et relativement jeune, mais en fait, disons, l'UNEF et la FIDEL, on a quand même affaire à des organisations qui, historiquement, ont eu une politique, ont eu des politiques d'ailleurs. De la manifestation, qui n'ont pas toujours été les mêmes, et les organisations transmettent des savoirs, même si ce n'est pas les mêmes individus. Mais c'est vrai que la capacité aujourd'hui de ces organisations à couvrir le champ des étudiants et des lycéens mécontents est plus limitée qu'elle ne l'a été dans d'autres circonstances.
J'ai sous la main un
question. Vous savez, en 68, finalement, si on reprend les premières manifestations du quartier latin, celles du 3 au 9 mai, je relisais l'autre fois d'entretien d'un dirigeant enseignant qui faisait remarquer que lors de la première évacuation de la Sorbonne, les militants de l'UNEF sont arrêtés pour quelques heures. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres forces qui agissent, qui sont des forces que nul ne connaît, dont nul ne sait d'où elles surgissent.
Donc on est dans une forme de grand classique, peut-être, en tout cas de répétition. Et évidemment, l'histoire ne se répète jamais.
L'histoire ne se répète pas.
Voilà, il y a quelques ressemblances, disons, avec ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années. Je disais que j'avais sous la main un ouvrage de deux de vos collègues chercheurs, et Daniel Tartakovsky et Christian Moina, Jérémy Gauthier et Fabien Jobard, qui ont publié au PUF « Police, questions sensibles ». Et dans ouvrage dans lequel ils font notamment un certain nombre de comparaisons, en particulier avec l'Allemagne, sur la façon dont la police, le maintien de l'ordre se fait en Allemagne, avec beaucoup plus d'informations communiquées aux manifestants pour qu'il puisse y avoir justement une séparation entre, on va dire, appelons les casseurs, et puis ceux qui ont vocation à manifester tranquillement. Et ils expliquent notamment qu'il y a des véhicules avec des haut-parleurs, des écrans LED qui sont disséminés sur le parcours des manifestations pour que les manifestants soient informés de ce qui se passe et de ce que fait la police. Ça, c'est quelque chose qui a du mal à entrer dans les pratiques policières françaises.
Ça a du mal parce qu'on était dans ce système de négociation de chef de police, commissaire avec, ou d'officier de CRS avec les responsables syndicaux, et d'une manière générale, on voit bien comment la police française, mais que ce soit en situation de manifestation ou en situation de sécurité du quotidien, a du mal justement à travailler avec les gens sur la sécurité. C'est toujours, on va gérer les masses, on va gérer les foules. Il y a toute cette expression dans le vocabulaire policier, la gestion de foule, gestion de masse, il y a des cours comme ça. On n'est pas dans comment on va coopérer avec les gens, comment on va leur expliquer qu'à tel ou tel endroit il y a justement de la bagarre qu'il vaut mieux éviter. On l'a vu jeudi, il y avait des endroits où il y avait des échanges un peu violents entre les CRS et certains manifestants. D'autres manifestants n'ont pas su s'ils devaient continuer sur le boulevard, changer de rue, etc. Donc on est bien dans cette idée que on doit gérer les masses comme le berger gère son troupeau avec son chien de berger, mais qu'on n'est pas dans l'idée que ces manifestants, et notamment l'immense majorité des manifestants qui veulent manifester sans problème, sans être soumis à la violence, que ce soit la violence policière ou la violence de groupes qui viennent s'infiltrer, ben on n'a pas l'habitude de cette co-gestion avec le public directement. On l'avait avec certains leaders. Quand on n'a plus ces leaders, quand ils sont moins identifiés ou quand ils ont moins de pouvoir, du coup, ça se perd totalement.
Et c'est d'ailleurs ce qui était frappant pendant les manifestations contre la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de manifestants qui témoignaient de leur incompréhension d'être traités de manière totalement indifférenciée, c'est-à-dire à partir du moment où on manifestait, Daniel Tartakovsky, on pouvait faire l'objet d'une forme de répression policière, même si on n'était pas soi-même, disons, coupable d'agissements violents.
Oui, mais il faut dire que les manifestants étaient confrontés à des formes de maintien de l'ordre qui surprenaient la police elle-même, qui était totalement, vous évoquiez tout à l'heure, la manifestation qui se mordait la queue, alors que n'importe quel responsable du maintien de l'ordre sait qu'il faut, quand on négocie un trajet de manifestation, avoir un lieu de dispersion qui permette de démultiplier les lieux de dispersion. Donc on était vraiment confrontés à une anomalie absolue, avec indéniablement, de la part de Manuel Valls, un relatif intérêt pour une violence qui pouvait lui permettre de venir à bout sous d'autres formes de la manifestation.
Ouais, j'aime beaucoup cette formule que vous utilisez. Alors, il y a peut-être des choses qui sont en train de changer. Écoutez cet extrait d'un reportage de LCI qui a été diffusé en octobre dernier à propos d'une cellule, la cellule Synapse, qui a été créée à Paris, précisément, pour mieux encadrer les manifestations.
21 septembre dernier, les manifestants battent le pavé parisien contre la loi travail. Cette fois-ci, contrairement à 2016, très peu de débordements et une dispersion dans le calme. L'explication se trouve peut-être ici, à la préfecture de police de Paris. Depuis 9 mois, une cellule baptisée Synapse analyse toutes les manifestations et décrypte les modes d'action de la mouvance autonome.
Le phénomène Black Bloc est une préoccupation majeure des acteurs de l'ordre public parisien. Avec le travail de Synapse, on a une analyse plus en profondeur des facteurs de risque, des facteurs de succès, et du coup, on en détermine un procédé, un processus.
Ce processus, ce sont de nouvelles tactiques d'intervention proposées aux responsables du maintien de l'ordre, plus modernes, mieux adaptées. Exemple, fini l'infiltration de policiers en civil dans les nébuleuses de cortège.
Pourquoi ? Parce qu'on expose des personnels de manière non efficiente, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire un petit peu plus à distance, avec des forces en tenue, qui sont visibles, qui sont protégées.
Fini aussi la présence massive de forces mobiles, désormais positionnées en retrait du cortège. Les arrestations ciblées remplacent les interpellations de masse. Prochain sujet d'étude pour Synapse, tester l'efficacité des marqueurs chimiques pour identifier les casseurs.
Approche plus moderne, mieux adaptée, Christian Moinat.
Oui, mais on a l'impression d'avoir des discours qui se renouent, enfin qui reviennent. L'histoire ne se répète pas, mais là, en l'occurrence, on a l'impression de voir revenir des choses. C'est à une période, on se dit, il faut infiltrer des troupes au sein des manifestants pour mieux cerner ces gens qui sont très mobiles, ceux qui sont violents dans les manifestations sont très mobiles. L'idée, c'est de casser puis de se mêler à la foule pour passer inaperçu. Et à un moment, c'est la mode. On va mettre ces groupes infiltrés. À un autre moment, on les retire parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Ça fait très longtemps qu'on voit que les manifestants sur les principaux boulevards parisiens où il y a des manifestations, dans l'Est parisien essentiellement, comment ils sont toujours dans les rues adjacentes. En observant depuis très longtemps, on n'a pas l'impression d'un changement vraiment très fort de stratégie de ce point de vue-là. Pour éviter que les boutiques soient cassées, c'est plutôt le fait que certaines banques vont s'équiper, vont mettre des planches de contreplaqué sur leurs vitrines, qu'une intervention de policiers où ça devient toujours très compliqué d'intervenir au milieu d'une foule, de cibler les bonnes personnes, etc. Et on a parlé à un moment, c'était la vidéosurveillance qui devait résoudre, permettre d'identifier les gens lors des manifestations. On l'a vu lors de procès où la diffusion d'images prises au milieu de manifestations permet très difficilement d'identifier l'auteur d'un jet de pierre sur un policier ou autre délit. En plus, les gens maintenant sont masqués. Donc on voit bien comment il y a toujours l'illusion qu'on va parvenir à tout contrôler. En fait, il y a toujours une part d'impondérable qu'on peut plus ou moins bien contrôler, mais qu'on n'arrivera jamais à cerner totalement.
Et cela dit, par ailleurs, la vidéosurveillance peut aussi peut-être parfois servir les intérêts de ceux qui commettent ces exactions en cassant des vitrines. Vous évoquez, alors là aussi, je vais à nouveau faire référence à une interview qu'on a retrouvée de vous, Daniel Tartakovsky, dans Le Monde en juillet 2016. Vous disiez ceci, je trouve ça très intéressant. Je m'interroge sur le sens politique d'une attaque contre une pharmacie ou un opticien. Ce qui me frappe, c'est que les manifestants sont beaucoup plus soucieux de leur reflet dans les médias qu'auparavant. La violence est devenue une des modalités qui permet de passer à la télé. L'image, la vidéosurveillance, mais aussi la vidéo tout court maintenant, ouais. Évidemment, avec les téléphones portables, c'est un outil du manifestant et c'est un outil politique, c'est-à-dire de pouvoir montrer aussi ce qu'on fait.
Ben Patrick Champagne l'avait montré, enfin là aussi, ça se renouvelle, mais Patrick Champagne l'avait montré pour les manifestations des années 60.
Disons que les outils se démocratisent, donc ça se diffuse encore plus.
Dans un article... qui est canonique, qui s'appelait la manifestation de papier, en montrant comment, à partir des années 60, les manifestants qui veulent passer aux 20 heures vont trouver des formes qui sont suffisamment spectaculaires pour intéresser les journalistes de la télévision. La violence fait évidemment partie du spectaculaire, et il s'agissait dans son article des manifestations agricoles qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que, moi je crois que c'est un phénomène qui débute avec les années 60 et qui évidemment s'amplifie avec les nouveaux moyens. Avant les années 60, ce qu'on appelle pas les médias, les journaux, c'est des adversaires. On va casser les vitres d'un journal adverse, ou c'est des alliés. On va saluer un journal qui a sauté les manifestations. À partir de 60, c'est quand est-ce qu'on parle. Je crois que l'image, effectivement, a sans doute, et la diffusion des images, a contribué à ces phénomènes, mais enfin, ça commence à faire un petit siècle maintenant, quoi. Un petit demi-siècle.
Christian Monnat.
Oui, non, il est clair que la vidéo, le fait de pouvoir prendre des images, place les manifestants. Enfin, on peut diffuser très vite des images d'actions spectaculaires qui peuvent être dans une petite rue, dans un coin, même caché. Du côté aussi des policiers, on voit que ça peut limiter certains actes de policiers parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être filmés, eux. Là aussi, il y a tout un enjeu de ne pas être identifié. On voit des policiers cagoulés maintenant, ce qui est, enfin, intégralement, on ne peut pas reconnaître leur visage, etc. Bon, il y a des immatriculations, on peut savoir à peu près qui on est du côté policier, mais du côté manifestant, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a toujours ce jeu autour de l'image, mais qui peut se retourner assez facilement contre le manifestant. Parce que, par exemple, on l'a vu au moment des manifestations, quand il y a eu l'hôpital Necker, enfant malade, un hôpital d'enfants attaqué par des manifestants et cassé, ça a été mis en lumière justement pour discréditer la manifestation. C'est là aussi où il y a toujours un jeu autour de l'image.
L'intervention à Montpellier, hein,
exactement. On pense qu'on va régler un problème, et puis parfois, on ne sait pas comment l'autre partie va s'emparer de ce qui s'est passé pour en refaire une réinterprétation. C'est pour ça, c'est toujours un équilibre assez complexe. Par exemple, on peut discréditer une manifestation en laissant des violences se produire si on est le gouvernement, mais on peut aussi se faire reprocher d'avoir laissé se produire les violences et donc de ne pas tout contrôler. Donc on est toujours un peu entre deux chaises et puis à essayer de manipuler, enfin de contrôler tout ça, mais c'est extrêmement difficile. Et parfois le policier sur le terrain ne sait pas trop, ne comprend pas trop ce qui se passe, et c'est là, à ce moment-là, où l'ordre ne règne plus du point de vue policier, qu'on a ce qu'on a pu voir lors des manifestations, notamment en 2016, des policiers isolés qui se sentent à tort ou à raison agressés, qui ont peur et qui à ce moment-là vont utiliser, et c'est là où on a de nouvelles armes, parce que tant qu'on utilise des gaz lacrymogènes, les gaz poivres, les jets d'eau avec ces camions qui envoient de l'eau, etc., on est dans la non-violence. Quand on passe au flashball, et là où à d'autres utilisations d'autres armes, ces fameuses grenades, là on voit que par moment il peut y avoir des débordements, et là on passe dans la violence, et là aussi la police peut se retrouver en position d'accusé.
Quand on regarde toute l'iconographie qu'il y a pu y avoir autour de mai 68, Daniel Tartakovsky, on a toujours l'impression que malgré la violence, il y avait quelque chose de très joyeux, il y a presque une forme d'exotisme autour de mai 68. Est-ce que cette crainte de manifester, finalement, elle a toujours existé? Et est-ce que voilà, la peur qu'il peut y avoir, et du côté d'ailleurs des manifestants et du côté des forces de l'ordre, c'est quelque chose qui, justement, comment dire, rythme un petit peu l'histoire de la manif en France?
S'agissant de 68, méfions-nous des images. Mais oui, moi je pense que le défilé sur la voie publique et la manifestation, hein, quelque nom qu'on lui donne, est toujours tendu entre une double origine, qui est la fête, mais qui peut être la fête au sens religieux, hein, la fête ou la violence, et ça peut expliquer qu'il n'y ait pas de droit de manifester. Le droit de manifester n'est pas inscrit dans notre constitution.
Oui, alors le droit de gréviller n'est pas le droit de manifester.
C'est un texte européen qui l'a construit en liberté quasi constitutionnelle. Mais il n'y a pas de droit de manifestation inscrit dans notre constitution, parce que la manifestation est quand même une forme d'expression démocratique qui est toujours susceptible à un moment donné de basculer du côté de la fête, ce qui est une excellente chose, ou du côté de la violence, ce qui est plus fâcheux.
Même s'il faut rappeler, hein, qu'il y a quand même plusieurs milliers de manifestations en France chaque année, et que la très grande majorité des manifestations se déroulent tout à fait calmement.
Tout à fait.
Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Ben, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Christian Monnat, je rappelle, donc directeur du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Je renvoie à votre ouvrage « La police contre les citoyens » aux éditions du Champ Social. C'était en 2012. Et puis Daniel Tartakovsky, qui est historienne. Et je retrouve tout de suite, ça y est, la manifestation aux presses de Sciences Po en 2013, et puis Le pouvoir est dans la rue. C'était chez Aubier en 1998. Merci à l'équipe du Grain qui prépare tous les jours cette émission. Virginie Leduo, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Antoine Dulster, Prune 16. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site. Et au bout de quelques heures, vous avez même droit à quelques extraits vidéo.